Europe 1.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Si vous êtes un peu stressé aujourd'hui, voici une histoire qui va vous détendre. Une histoire apaisante, pour une fois. Très apaisante. Et cette histoire fera aussi le bonheur des enfants si vous en avez eu. C'est l'histoire de Geoffroy Delorme. Il a vécu pendant 7 ans dans une forêt. Avec des chevreuils. Et il raconte tout ça dans un livre aux éditions des Arènes, L'homme chevreuil. La voici, cette histoire que j'ai écrite avec Bettina Servant. Réalisation Céline Lebras. Tout gamin, dans ma classe du cours préparatoire, je contemple le monde sauvage par la fenêtre. Les moineaux, les rouges-gorges, les mésanges, tous les animaux. Je suis enfermé dans cette pièce avec d'autres enfants qui apparemment s'y plaisent. Mais eux, ils sont libres. Je ressens déjà un bourgeon de mutinerie contre une vision humaine dans laquelle on essaye de m'enfermer. Quelques mois après la rentrée, un événement vient cristalliser ce bourgeon de rébellion. Une sortie à la piscine. Arrivé devant le bassin, je suis tétanisé. C'est la première fois que je vois autant d'eau. Une peur instinctive m'envahit. La monitrice me dit de me jeter à l'eau. Geoffroy, tu plonges, elle dit. Et là, elle s'approche de moi. Elle me prend par la main. Et elle me jette dans l'eau. Et moi, je bois la tasse, évidemment. Et je commence à couler. Quand je la vois plonger dans ma direction, je me dis, elle va me tuer. Et là, mon instinct de survie me pousse à réaliser l'impensable. Je nage comme un petit chien jusqu'au milieu de la piscine. Je plonge pour passer le filet qui me sépare du grand bassin. J'arrive jusqu'au bout, je grimpe à l'échelle. Je cours jusqu'au vestiaire. Je me rhabille, je me faufile jusqu'à la sortie. Et je dévale la rue en courant, le regard brouillé par les larmes et par le chlore. Suite de cet incident, on décide de me faire arrêter l'école. Je vais poursuivre ma scolarité à la maison, grâce au CNED. Et je me retrouve donc, seul, dans ma chambre, sans copain, sans prof, avec heureusement une grande bibliothèque qui contient des trésors. Nicolas Vanier, Cousteau, Diane Fossé, Jane Goodall, autant de livres qui racontent la nature. Et la vie sauvage. Un matin, je découvre que des merles ont fait leur nid dans la haie, en face de ma chambre. Dans mon cerveau, ça devient une injonction absolue. Je dois veiller sur eux, éloigner les chats, notamment. Du coup, de jour ou de nuit, j'ouvre ma fenêtre et je me glisse à l'extérieur pour prendre des nouvelles. Et à force de me voir, ils s'habituent à moi. Alors je leur donne à manger. Des miettes de pain, des vers de terre, des insectes. Et chaque jour qui passe, je gagne un peu de leur confiance. Je peux désormais regarder piailler les bébés à 20 cm d'eux. Depuis quelque temps, un renard vient dormir sous un arbre touffu de notre jardin. Un soir d'hiver, je décide de le suivre. Je ne me suis jamais autant éloigné de ma chambre. Une centaine de mètres plus loin, en lisière de forêt, le jeune goupil me dévoile l'entrée de son terrier. Je trouve la forêt fascinante, envoûtante. Alors tous les soirs désormais, je m'aventure un peu plus loin. Et une nuit, je tombe nez à nez avec un cerf. Un cerf! Ça me pétrifie. Je les ai déjà entendus bramer l'été. Mais ce corps lourd, à moins de 10 mètres de moi, le sol qui vibre à chacun de ses pas, je suis la maison, on me dit que ce n'est pas un métier. On ne peut pas en vivre, Geoffroy. On ne peut pas en vivre, enfin. Mais moi, l'argent n'est pas ma priorité. Je cherche une stabilité morale. Vivre le moment présent à l'image des animaux de la forêt. Me remettre à ma vraie place dans l'ordre des choses. Évidemment, personne ne croit en moi. Je n'ai aucun soutien. Mais plus on cherche à me retenir, plus les liens s'effilochent. Alors c'est décidé. Je pars en forêt. Il y a une fable de La Fontaine qui décrit assez bien ce que je ressens à ce moment précis. Le loup et le chien. C'est une fable dont la morale est « Mieux vaut être pauvre et libre que riche et contraint. » Mon expédition commence au mois d'avril. Ma forêt est une forêt de 4500 hectares dans le département de l'Eure, la forêt de Louviers, qui épouse la quatrième boucle de la Seine. Je choisis de m'installer à l'est, sur un grand promontoire qui domine toute la vallée de la Seine. Avec mes économies, j'achète des boîtes de conserve, de l'eau potable et tout un tas d'outils dont j'ai l'impression d'avoir besoin pour survivre. Et je cache tout ça au pied d'un arbre, dans un entrelac de racines. Hélas, quelques jours plus tard, les sangliers découvrent mon trésor. Ils sont délectes. Je retrouve toutes les conserves éventrées par leurs sabots. Les sangliers qui, d'une certaine manière, me disent « Non mais, tu te crois où ?» J'en conclus que la stratégie la plus efficace consiste à manger le plus possible ce que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire les feuilles de ronces, de bouleau, de charme, les baies, les châtaignes, les noisettes, bref, énormément de plantes plus ou moins bonnes au goût, mais formidablement riches en nutriments. Et puis, il y a la nourriture que les chasseurs déposent au pied des arbres pour engraisser les sangliers. Des pastèques, des courgettes, des tomates, et aussi du pain. À partir de maintenant, les aliments extérieurs ne servent plus qu'en cas de disette. Et là, la plus vulgaire boîte de raviolis m'offre désormais un moment de fête. Les sangliers, les cerfs, les biches, les renards que je croise m'acceptent de plus en plus en gardant leur distance. Au bout de quelques mois, j'ai l'impression de m'être fondu dans le décor. Un matin, je suis en train de ramasser quelques feuilles à grignoter sur le bord d'un chemin quand un chevreuil s'arrête net à quelques pas. Il redresse la tête. Pointe ses oreilles dans ma direction. Nous nous fixons l'un l'autre pendant quelques minutes. Il se détourne lentement, il s'enfonce dans le taillis. Je viens d'être touché par quelque chose de plus fort que moi. L'appel de la forêt. Ce chevreuil, je le baptise Daqué. Et quand je le croise à nouveau, il choisit de rester pour m'observer. Moi, je fais mine d'ignorer sa présence. Le soir, je tombe à nouveau sur lui. L'air de rien, il me suit partout. Comme s'il voulait apprendre sur ce nouveau venu qui s'est invité chez lui. Et de jour en jour, notre relation grandit au gré de nos rencontres. Marcher derrière lui. Il est en train de ruminer, couché au pied d'un arbre. Je m'approche observe et nous restons plantés là pendant une bonne demi-heure. Il m'a intégré à son environnement. C'est un moment absolument magique. Pourvu que je ne sois pas dérangé par d'autres humains. Ça serait terrible s'il m'associait à eux. La nuit, je suis sans cesse réveillé par des chouettes qui hurlent, par des renards qui hurlent, et surtout par des sangliers qui font un vacarme ahurissant. Et ça grince, et ça crie, et ça grogne, et ça court dans tous les sens. Impossible de dormir. Ajoutez à cela le froid. Je suis rincé. Au point d'ailleurs de remettre sérieusement en question l'issue de mon aventure. Je ne me repose jamais, car dans la journée, je cherche ma nourriture. Je me construis de petits abris pour me protéger de la pluie. Ça me prend un temps fou. D'autant qu'ils sont rapidement envahis par des insectes et qu'il faut les refaire tous les jours. Alors un matin, j'ai une poêle, une casserole et un couteau de survie. J'ai aussi un chargeur solaire pour mon appareil photo, un briquet, ma carte d'identité et un petit miroir. C'est très utile, un miroir, pour diagnostiquer une piqûre d'insectes mal placée, par exemple. L'hiver, il y a moins à manger, alors il faut apprendre à stocker. Orties, menthe, origans, reine des prés, angélique. Je mets ça tous les jours dans un filet de provisions, accroché à une branche pour sécher. Et la nuit, je les mets dans un sac plastique. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an, j'atteins l'autonomie alimentaire. Bon, je retourne encore de temps en temps à la civilisation. Deux ou trois fois par mois, pour reprendre des forces. Les plats que je trouve dans le frigo familial sont toujours aussi appétissants. Mais j'ai de plus en plus de mal à les digérer. J'en profite pour récupérer deux ou trois boîtes de conserve. Je dors quelques heures dans mon lit d'enfant. Je prends une bonne douche chaude. Et est-ce que je fais une lessive ? Ben non. Je ne veux pas importer d'odeur du monde des hommes dans la forêt. Ça rendrait mes amis chevreuils trop nerveux. Et je repars avant le lever du jour, en évitant de croiser mes parents qui réprouvent ma nouvelle vie d'homme des bois. Vous vous demandez, je suppose, comment j'aborde les questions d'hygiène. D'abord, j'ai un atout. suis imberbe. Et donc une toilette régulière des pieds, des aisselles et des parties génitales est amplement suffisante. Mais comment trouver de l'eau pour me laver? J'ai localisé quatre hêtres magnifiques de 40 mètres de haut, qui forment en leur centre un gros chaudron qui retient parfaitement bien l'eau de pluie. Cette réserve est largement suffisante pour ma petite toilette. De quoi j'ai l'air? Les premiers mois, les insectes ne me font pas de cadeaux. Mais avec le temps, ma peau se durcit, elle s'épaissit. Quant à l'hygiène bucco-dentaire, comme je ne mange plus de sucre, ben c'est plus un problème. Je me contente de passer mon index sur mes dents avec un mélange d'eau et de cendre. Et le tour est joué.
Envie de le caresser, mais
l'apprécier. Alors je pose ma main sur son dos et je le caresse longuement en observant sa réaction. Il se détend, il ferme les yeux et il finit par s'endormir. À certains moments, il gémit un peu et il donne de tout petits coups de patte comme ça. Il est en train de rêver. Pas un bruit ne vient perturber la plénitude de ce moment. Et puis soudain, des promeneurs qui ont l'air de vouloir traverser la prairie, ils se dirigent droit vers nous. Ils arrivent à notre hauteur et Daguet dort toujours. On se dit bonjour. Il n'a pas bougé d'un poil. Je n'en reviens pas. J'y vais toujours la nuit pour ne pas croiser mes parents. Aujourd'hui, j'y vais pour prendre une douche chaude, mais aussi parce que j'ai un mauvais pressentiment. Ça fait un moment que je n'ai pas quitté la forêt. Je marche sur le trottoir le long de la rue éclairée par le vieux lampadaire. Le portillon de la maison est fermé à double tour. Alors je passe par-dessus. J'insère ma clé dans la serrure de la porte d'entrée. Quelque chose bloque. Impossible de l'ouvrir. Alors je décide de passer par la petite porte du garage. Et me voilà à l'intérieur. Je vais vers le réfrigérateur. Vite. Je regarde dans les placards. Vite eux aussi. Mais certains sont même fermés à clé. Ils ont dissimulé la nourriture. Je repars les larmes aux yeux. C'est la dernière fois que j'y retourne. Et maintenant je vais retrouver ce que je considère comme ma vraie famille. Les chevreuils. Dès mon retour en forêt, je veux voir Chevy. Vous vous souvenez, le fils d'étoile, ce petit mâle que j'ai vu naître. Avec lui, j'ai maintenant un degré de complicité que je n'ai jamais eu avec les autres chevreuils. Comme si on se connaissait depuis toujours. Il m'a intégré à sa vie. Grâce à lui, je me sens un peu chevreuil. Et ce soir-là, je veux le voir. Je veux lui confier ma peine. Mais je ne le trouve pas. Les heures passent et la déprime me gagne. Et puis soudain, le voilà. Debout. Qui m'observe. Je cours vers lui à toute allure, sans réfléchir, et je la grippe. Et les deux mains autour de son cou. Je me mets à pleurer sur son épaule. Il reste immobile pendant de longues minutes. Je sens son cœur qui bat contre ma joue. Il pose son museau sur mon épaule. Et il se met à me lécher le visage. Chevy est plus qu'un ami. C'est un frère. J'ai découvert une personne non humaine. Pour qui j'ai une incroyable estime. Ces dernières années passées dans la forêt, à cause de mon alimentation restreinte sans doute, je ressens une fatigue musculaire. Un jour, il pleut légèrement avec un vent glacial. Je m'endors derrière un gros arbre. Et à mon réveil, je ne sais plus où je suis, ni qui je suis. Tous mes membres sont paralysés, impossible de me lever. Chevy vient me lécher le visage, comme d'habitude après la sieste. J'essaie de me lever. Je suis cloué au sol. Alors je m'agrippe à une branche et je parviens à me mettre debout. Mais là, je vomis. Alors j'allume un petit feu de feuilles mortes et de brindilles. Je m'en veux de m'être laissé aller comme photographe animalier. Et là, je commence à lui parler de mes chevreuils. Et elle me dit que je devrais exposer mes photos pour faire connaître la vie de mes chevreuils. Un sentiment étrange m'envahit. Un sentiment que je n'ai jamais ressenti. Cette femme qui aime les animaux et qui aime la nature me touche. Quand je retourne auprès de Daguet, son visage revient dans mes pensées. Et le souvenir de son odeur ne me quitte plus. Et voilà. Voilà comment je reprends contact avec la civilisation. Et comment j'organise ma première exposition. Mon aventure ne sera plus jamais solitaire. Elle sera, cette femme, la seule à rencontrer mes amis. Et désormais, nous sommes au moins deux à connaître le monde extraordinaire des chevreuils.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.